la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Le musée Estrine est situé à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles, entre Avignon et Arles. Ce musée associatif est labellisé Musée de France. Et comme d'autres musées, a fermé ses portes pendant de longs mois, pendant la crise sanitaire. Nous cherchons aujourd'hui, avec sa directrice Elisa Farran, à voir comment la crise a été vécue et comment la sortie de crise en ce moment est vécue par les équipes du musée. Donc nous allons évoquer la reprise d'activité de l'établissement, la période de fermeture, l'organisation du travail au musée pendant la fermeture, ainsi que plus globalement la situation d'un très beau musée situé donc dans les Alpes à Saint-Rémy-de-Provence et dépendant assez fortement de l'accompagnement financier des collectivités territoriales et également de la fréquentation des touristes. J'en profite pour signaler deux belles expos que je n'ai pas encore vues mais qui sont visibles au musée Estrine cet été. L'une se termine très bientôt le 11 juillet. Elle est consacrée au peintre Jean-Pierre Blanche, donc elle est visible jusqu'au 11 juillet. Et ensuite, une exposition consacrée à Françoise Gillot ouvrira ses portes le 17 juillet et sera visible pour le public jusqu'à fin décembre. Je précise également que la gratuité, c'est important de signaler, s'applique pour les demandeurs d'emploi les moins de 18 ans au musée Estrine et qu'il y a un demi-tarif de 5 euros pour les étudiants. C'est un peu de publicité pour l'établissement, mais je pense que c'est important. Elisa, bonjour.
Bonjour Bertrand.
Est-ce que j'ai été suffisamment précis sur les expositions et la tarification et la situation du musée?
Je crois que vous avez tout dit. Après, il y a d'autres tarifs qui s'appliquent. Il y a des réductions qui s'appliquent aux artistes rattachés à la Maison des artistes, aux professionnels de musée, enfin toutes les tarifications qu'on a l'habitude de pratiquer dans les musées.
On laisse les auditeurs découvrir ça sur le site du musée Estrine. Elisa, vous dirigez le musée depuis un certain nombre de temps. Je pense que c'est quasiment 12, 13 ou 14 ans. Le musée associatif a été labellisé Musée de France. Donc ça, c'est très, très, très particulier. Un musée associatif labellisé Musée de France dès 2017. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'histoire du musée et son activité?
Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, Bertrand. Un musée associatif en France, c'est assez rare. Sur les 1500 musées de France, hein, j'arrondis, on est une grosse centaine des musées associatifs et des musées associatifs à fonctionner avec des équipes salariées, je pense qu'on est moins de 30. Hein, donc c'est vraiment un cas particulier pour le service des musées de France. Je vous donne un autre exemple à titre indicatif. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris est aussi un musée associatif, comme le musée Unterlinden de Colmar. Donc vous voyez qu'il y a aussi des très grosses structures qui ont ce label. Alors, le musée associatif est une contrainte, évidemment, puisque c'est un musée qui repose beaucoup sur le bénévolat, avec un conseil d'administration investi dans le cadre du musée Estrine, mais qui n'a pas de service dédié comme un musée en régie, c'est-à-dire de bénéficier de la régie communication, de la régie technique d'une mairie ou d'un département ou d'une région. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus compliqué dans les faits à pratiquer, qui demande effectivement beaucoup plus de polyvalence dans les profils de poste qui sont intégrés. Mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, et je pense que ça l'est d'autant plus dans cette période un peu complexe, c'est que ça repose sur les volontés humaines, sur l'association des volontés humaines, et donc sur la nécessité de considérer le projet musée comme un vrai projet citoyen, solidaire, inséré vraiment dans le lien social de la ville. Donc pour ça, je pense que c'est quand même un statut qui a quelques avantages, car il faut bien lui en trouver. Donc quant à l'histoire du musée Estrine, elle a 30 ans maintenant. On a célébré les 30 ans du musée il y a 2 ans, 2019. Le lieu a été fondé par un philanthrope mécène comme il n'en existe plus beaucoup, qui s'appelle Philippe Latourelle, et qui a travaillé en fait à répondre à une demande qui était forte à Saint-Rémy dans ces années 80, qui était de découvrir et de connaître la présence de Vincent Van Gogh. À ce moment-là, la fondation Van Gogh d'Arles n'existe pas, le cloître Saint-Paul de Mosol ne se visite pas, n'est pas ouvert au public, donc les gens viennent sur les traces de Van Gogh un petit peu en demande sans trouver quelque chose qui les conduit, qui les guide et qui les éveille un peu à ce passage assez flamboyant de Van Gogh, en tout cas dans le Midi Provençal. Donc à partir de là, Philippe Latourelle, grâce à l'appui de la mairie, et ça vraiment c'est fondamental, c'est toujours aujourd'hui le propriétaire des murs et un de nos partenaires financiers, la mairie rachète le bâtiment, qui est un hôtel 18e magnifique, un hôtel historique du centre de Saint-Rémy, et Philippe Latourelle, avec l'association Présence Van Gogh, qui est toujours l'association qui gère le musée Estrine, donc constitue un espèce de centre d'interprétation Vincent Van Gogh, qui vient raconter la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh à Saint-Rémy. À partir de là, que se passe-t-il? Dans cette filiation hein, van Goghienne, dans cette idée du grand atelier du Midi, Philippe Latourelle va accueillir des peintres du territoire qui travaillent vraiment à faire connaître, à développer la peinture dans ces années 85 qui lui sont plutôt hostiles. Hein. Les années 80 ne sont pas des grandes années où la peinture occupe la scène contemporaine. Donc Philippe Latourelle construit cette maison d'artistes, si on peut l'appeler comme ça. À partir de là, l'histoire fait que un autre grand artiste qui a habité Saint-Rémy-de-Provence, qui est Albert Glaise, la présence et la vie de l'association attire l'attention de la Fondation Albert Glaise à Paris, qui décide de mettre des œuvres en dépôt. Donc là commence le concept de collection. Les artistes, petit à petit, qui exposent, laissent des œuvres. Des mécènes offrent des œuvres au musée, etc., etc., jusqu'en 2007, où finalement, sous les conseils de l'inspection des arts plastiques, à l'époque, je crois que c'était Christian Brien, qui est aujourd'hui directeur des collections à Beaubourg, il est conseillé, je dirais, de présenter cette collection au label Musée de France, qu'elle pourrait être candidate à ce label. Donc la collection est présentée, le label est attribué, la seule condition, c'est qu'il faut du personnel qualifié, scientifique, pour la diriger, pour la conserver, pour la valoriser. C'est à ce moment-là que j'arrive. Donc vous avez raison de le rappeler, Bertrand, ça fait maintenant 14 ans que je dirige cette collection et ce musée.
Merci beaucoup, Elisa. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est très important de le rappeler. La dimension humaine et l'impulsion d'une personne, un mécène, un amoureux des arts, une personnalité engagée. Je dirais pas une personnalité hors norme, parce que après ça va dissuader les vocations, et on souhaite évidemment créer des vocations de ce type en région et en France. Mais c'est vrai que l'impulsion du musée a été donnée par une personne qui a une dimension extraordinaire et qui s'appelle Philippe Latourelle. Il faut quand même le rappeler. Et ça, c'est très bien, parce que au départ, c'est une aventure, somme toute, modeste, individuelle, et puis qui fait boule de neige, et puis qui entraîne tout le monde dans une grande aventure.
Exactement, exactement. Vous avez raison de le rappeler, Bertrand.
Alors, la dimension humaine, justement, là, on revient un peu plus près du présent, mais un an et demi en arrière, la dimension humaine prend un gros coup d'arrêt, là, et un grand coup de massue sur la tête avec la crise sanitaire. Or, cette dimension-là, c'est un peu la raison d'être du musée, qu'il soit associatif ou en régie, qu'il soit national ou municipal. Et tout s'arrête, vous allez nous le rappeler précisément, mais comment l'arrêt d'un musée dont la vocation est d'accueillir du public et de rencontrer les gens, comment cet arrêt est vécu par le musée et ses équipes en particulier?
Déjà, je pense qu'il y a eu un choc, un peu tremblement de terre national qu'on ressent tous dans notre fort intérieur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment de la première fermeture et du premier confinement, donc le 14 mars 2020, nous ne sommes pas vraiment, je pense que la question du musée, elle est secondaire finalement dans l'inquiétude générale et la bataille qui se joue contre cette maladie. Donc dans les premiers temps, on est figé. Surtout que nous, on a une ouverture qui n'est pas annuelle, c'est-à-dire qu'on ferme quand même 3 mois par an, qui sont la période vraiment hivernale de décembre à mars. Donc en fait, le 14 mars, quand le confinement sonne le glas de l'ouverture des lieux publics, nous, ça fait une semaine qu'on a réouvert au public, on a accueilli une grosse exposition qui est une coproduction avec 2 autres musées français, et donc on est la dernière étape de cette itinérance, on vernit l'exposition, c'est le printemps, on ouvre le musée, les collections sont accrochées, et boum, une semaine après, tout se referme. Alors là, c'est vrai que bon, passé le mouvement de panique, on comprend très vite qu'on ne comprend pas grand-chose et qu'on n'a pas de date fixe qui vont nous dire on pourra réouvrir dans 3 semaines, dans 1 mois. On comprend qu'on s'installe dans quelque chose. Donc on essaye quand même de rebondir, alors dans un premier temps avec nos supports qui sont accessibles à tous, qui vont être les réseaux sociaux. Ça, je vous cache pas que la première réaction, ça a été de faire les réseaux sociaux, d'envoyer des petits messages, je dirais, d'amitié, de présenter quelques tableaux sur Instagram et de parler, de renvoyer un petit peu sur des interviews, des entretiens qui ont été faits sur le peintre de l'expo temporaire ou sur ceux qui sont dans les collections permanentes. Mais on a le pressentiment, je vais vous dire, que quelque chose de fond est en train de changer. Mais ça, à ce moment-là, dans ce premier confinement, c'est encore un petit peu difficile pour le jauger, puisque à ce moment-là, on n'avait presque pas le droit non plus d'aller travailler. Moi, j'étais au musée tous les deux jours pour m'assurer que tout se passe bien, mais c'était vraiment compliqué. Il y avait des barrages sur la route, il fallait avoir ses attestations. Donc, on avait quand même l'impression de vivre un climat assez anxiogène. Et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt dans le deuxième confinement qu'on s'est installé dans des réflexions de fond. On a ouvert la voie aux réflexions dans le premier. Et dans le deuxième, on a vraiment senti que quelque chose changeait beaucoup.
Merci pour ces précisions. Il y a deux points que j'aimerais aborder plus particulièrement, c'est les relations qui se développent, j'imagine, avec la ville, parce que si le bâtiment n'est plus ouvert au public, il faut quand même vérifier veiller à sa sécurité. Donc c'était un aspect de cette période que je voulais aborder avec vous, c'est les relations, comment les relations avec la mairie, donc la municipalité de Saint-Rémy, se mettent en place. Et aussi, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est chouette. Mais alors, est-ce qu'il y a de l'interaction via les réseaux ou via le site avec le public et avec les artistes à ce moment-là?
Alors, pour répondre à votre question, pour les réseaux sociaux, oui, on a de l'interaction. Alors déjà, c'est dans le cas de l'année dernière du premier confinement, donc on avait un artiste contemporain qui s'appelle Denis Laget, que j'avais beaucoup au téléphone, parce qu'il faut aussi se mettre à la place de nos artistes. C'est un artiste qui a une soixantaine d'années, c'était sa première grande rétrospective, itinérance, donc voilà, dans trois musées, une exposition qui était visible pendant une année, grosso modo. Et donc, c'est vrai qu'il y avait de l'inquiétude de son côté à se dire, bon, bah voilà, c'était un peu, je vais pas dire la chance de ma vie, mais enfin, c'était un moment important dans ma vie d'artiste, et ce moment va aussi ne pas se dérouler comme prévu par cette situation pandémique. Donc, j'avais beaucoup Denis Laget au téléphone, on parlait beaucoup de choses, on parlait beaucoup de l'exposition. Donc, c'est vrai qu'on était en tout cas, on s'est beaucoup nourri, je pense, de ces conversations pandémiques, on va dire. Après, sur les réseaux sociaux, oui, on a quand même assez d'interactions. On a une page Facebook et donc un compte Instagram depuis très longtemps, je dirais depuis une quinzaine d'années pour les deux. Donc finalement, on a pas mal de followers et d'abonnés qui sont assez réactifs et qui aiment bien qu'on les nourrisse, qu'on leur envoie des images, des souvenirs du musée, de notre état. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Donc c'est vrai qu'on avait publié des photos du musée fermé, des photos des œuvres qui attendaient. On avait fait des focus sur la collection, mais on n'avait pas à ce moment-là la technique pour réagir sur des choses filmées, par exemple, ce que j'ai beaucoup regretté, parce que beaucoup de collègues à moi en ont profité pour faire ces espèces de notices d'œuvres filmées en vidéo, ce que je trouvais formidable. Mais on n'avait pas la technique pour le mettre en place, donc on s'est contenté vraiment d'images des œuvres, de commentaires, de mots d'artistes. Et on a essayé comme ça d'alimenter, je dirais, de garder un contact de fond. Après, avec la mairie, pour répondre à votre deuxième question, alors le bâtiment appartient à la mairie, certes, mais il est en gestion privée, donc la mairie n'a pas accès au bâtiment. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais la seule personne qui était en veille, puisque mon équipe de fête était au chômage technique, elle est en accueil, mon équipe en accueil des publics. Donc, j'étais la seule personne, et avec le président du musée, on se relayait un jour chacun pour venir au musée, vérifier que tout allait bien, que les œuvres étaient absolument pas menacées, en danger, qu'on n'avait pas de problèmes de toutes sortes qu'on peut rencontrer dans un musée, de problèmes de température, de problèmes d'humidité. On vérifiait ça régulièrement. Et c'était aussi le moyen de profiter très individuellement des œuvres, puisque du coup, effectivement, en tant que conservateur, la relation que j'ai pu nouer et lier avec les œuvres de Denis Laget est assez exceptionnelle, puisqu'au final, je les ai gardées pratiquement 6 mois. Là où la mairie est intervenue, c'est à la sortie de confinement, puisque avec le maire de Saint-Rémy, on avait beaucoup discuté sur un axe fort de réouverture, un appel vraiment à relancer un peu cette ouverture aussi touristique, alors au Saint-Rémois, bien sûr, aux Alpinois, mais aussi touristique. Et donc, la mairie a souhaité rendre tous les lieux culturels gratuits le premier mois, le mois de juin. On est sorti de confinement fin mai. On a ouvert tout de suite. Ça, vraiment, Hervé Cherubini m'avait dit, est-ce que tu penses que tu peux ouvrir vite? Parce que je vous rappelle qu'il y a des musées qui ont échelonné leur ouverture jusqu'à début juillet l'année dernière. Donc, nous, on a eu l'autorisation préfectorale tout de suite. Je crois qu'on a été le deuxième musée de la région à ouvrir. Et on a ouvert vraiment, je crois que c'était le 19 ou le 20 mai, la sortie de confinement l'année dernière. Et on a ouvert vraiment tout de suite, le premier jour on était ouvert, avec des règles qui n'étaient pas encore tout à fait définies. Je me souviens avoir eu le centre de recherche et de restauration du Louvre pour avoir des préconisations quant à la circulation dans les climatisations. Enfin, on était encore au balbutiement du protocole défini. Et donc, on a réussi à ouvrir vite et on a eu énormément de monde ce premier jour de réouverture. Ça, vraiment, je me souviens que à ce moment-là, on a dû avoir, pour nous, était très important, une quinzaine de personnes la première heure. C'est beaucoup pour nous. Donc, ça voulait dire quand même qu'il y avait un véritable souhait du public de retrouver ces lieux culturels. Et donc, la mairie nous a accompagnés ce premier mois de juin, donc en nous donnant une subvention exceptionnelle pour pouvoir faire la gratuité tout au long du mois de juin, ce qui nous a permis d'accueillir, je crois, pratiquement 1000 visiteurs dans le mois.
Ouais, merci. Ben, c'est intéressant parce qu'en fait, ça souligne plusieurs points importants, des points auxquels on ne pense pas forcément d'ailleurs. Par exemple, ça met à l'épreuve ce genre de crise les relations avec la collectivité d'accueil.
Bien sûr.
Il faut se faire confiance et il faut qu'il y ait eu un dialogue avant pour pas que ça se transforme en grande improvisation un peu peut-être aléatoire. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Après, il y a une question que je me pose. Il y a le moment de choc et de stupéfaction. Bon, une fois passé, est-ce qu'on se met dans un musée qui est fermé au public à imaginer une activité qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal? Est-ce que c'est une chose que vous avez mise en place seule ou avec vos équipes au sein du musée?
Alors effectivement, quand on s'est retrouvé donc au musée fermé. On a passé beaucoup de temps à faire des brainstorming et des casse-têtes chinois parce qu'on commençait le terrible report d'exposition. Ça, c'était assez compliqué parce que là, il a vraiment fallu, on est toujours dedans parce qu'on a toujours des expositions qu'on a décalées, repoussées, avancées. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc ça nous a pris beaucoup de temps parce que nous, de plus en plus, et c'est une tendance qui, je pense, va s'accentuer depuis cette situation sanitaire, nous avons tendance à aller vers la mutualisation. En tout cas, pour les expositions temporaires, on essaye de travailler en coproduction avec d'autres musées en France, de manière à évidemment alléger les coûts, mais aussi à rendre une exposition plus visible à son public. Il est évident, quand on travaille avec un musée en Bretagne, un musée dans le nord de la France ou dans l'Est, ça permet aussi une visibilité qu'on n'aurait pas en travaillant seul sur notre territoire. Donc ça, c'est une tendance qui fait partie des tendances qui se sont vraiment accentuées à la suite du confinement. Et c'est vrai que dans le premier confinement, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à avoir de bonnes interfaces numériques, c'est-à-dire que notre logiciel d'informatisation des collections ne nous convenait pas, on l'a vraiment remis à l'épreuve, on va dire, et on a décidé de travailler sur un autre logiciel. Donc on a acquis un nouveau logiciel d'informatisation grâce à l'aide de la DRAC d'ailleurs, et on a pu donc faire une bascule, tout un travail de fond assez complexe, parce que ça n'a l'air de rien, ça a l'air informatiquement toujours d'être très facile, mais dans les faits, ça l'est beaucoup plus difficile. Et donc, on a vraiment travaillé à informatiser nos collections, donc à faire une fiche numérique pour chaque tableau et à enrichir ces fiches, donc à faire un travail qui est complètement invisible pour le public. Pour le moment, je ne dis pas qu'il le sera en permanence, mais en tout cas, pour le moment, il est invisible, avec l'idée à terme que cette collection numérique soit accessible de notre site Internet. Voilà. Mais pour faire ça, évidemment, il faut quelques mois, voire une année entière, le temps de le mettre en place. Et donc, ce travail-là, on a pu le mener justement parce qu'on n'avait pas d'activité liée à notre accueil du public quotidien. De la même manière, on a fait un gros travail d'archivage et d'ordre et de rangement dans toutes les réserves, aussi bien les réserves d'œuvres que les réserves documentaires. On a fait le point sur toute la bibliothèque, on a enrichi le fonds bibliothécal, on a aussi enrichi le fonds documentaire, on a été travailler énormément à récupérer beaucoup de scans, de catalogues avec la bibliothèque Kandinsky. Enfin, on a fait un gros travail d'archivage qui nous permet aujourd'hui, et là vraiment c'est tout frais puisqu'on vient de mettre en place le centre documentaire, on est en train de terminer son installation, d'imaginer proposer au public un vrai lieu de consultation documentaire, donc à la fois sur nos expositions, mais aussi sur les artistes du musée. Donc on a travaillé, je dirais, quand même beaucoup plus le fond. Alors c'est sûr, c'est pas visible dans un premier temps, mais pour nous, au musée, c'est fondamental, en fait. C'est ce qui tourne vraiment autour du travail de conservation.
Merci, Elisa. Ben, ça soulève aussi plein d'autres questions, parce que si c'est un travail de fond qui a été fait à l'occasion de la fermeture de l'établissement, Peut-être qu'en creux, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de, il n'y a pas assez de personnel pour faire ce travail-là, ou de temps ou de personnel pour faire ce travail-là en temps normal quand il faut accueillir le public. Mais bon, c'est une autre question. On va pas ouvrir la discussion là-dessus. Je pense que ça nous entraînerait peut-être trop loin. J'ai une question concernant la réouverture. Il va falloir qu'on avance un peu dans le temps, mais vous avez réouvert il y a combien de temps finalement? Quelques semaines?
On a réouvert le 19 mai, là. Sur le deuxième confinement, on a réouvert tout de suite, on était prêts, on a réouvert tout de suite. C'était un peu brutal parce que finalement, le go pour la réouverture a été annoncé 15 jours avant. Donc on est passé de grand immobilisme à l'ouverture précipitée. Donc c'était un peu... terrible de vous dire ça, mais on n'était pas tout à fait prêts. Donc on a vraiment dû travailler beaucoup pendant 15 jours, 3 semaines pour pouvoir présenter l'exposition, et les collections étaient accrochées, mais l'exposition en tout cas peaufinait son accrochage.
J'avais évoqué là à l'instant, plutôt en début d'entretien, j'avais évoqué le caractère un peu, vous l'avez redit, ressouligné, le caractère saisonnier de l'activité du musée.
Mm-hmm.
Donc on arrive sur la période d'été, c'est bientôt les vacances. Est-ce que le public, à l'issue de la réouverture du musée, revient de manière aussi forte que lors de la réouverture à la sortie du premier confinement?
Non, on n'a pas du tout on n'a pas le même entrain. Voilà, on est grosso modo à 30-35% de fréquentation en moins. Alors il faut, vraiment par rapport à l'année dernière, sachant que l'année dernière on était dans le même cas de figure avec toute la partie très touristique étrangère qui n'était pas non plus là au rendez-vous au mois de mai-juin. Donc là on peut vraiment comparer, on est quand même très en dessous des chiffres de l'année dernière. Alors j'ai des explications très sommaires qui sont que je pense que les gens ont plutôt envie de se retrouver aux terrasses des cafés et des restaurants que dans les musées pour le moment, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps et que une fois que les habitudes seront retrouvées, ils reviendront avec joie dans nos musées. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas une priorité. Je pense que les gens ont envie d'être dehors plutôt que de re-rentrer à l'intérieur, quoi.
Oui, parce que l'ouverture des musées est un peu concomitante avec l'ouverture des les terrasses de café, des terrasses de restaurants.
Oui, tout.
C'est vrai, faut le préciser. Quand on parle de public aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions de jauge? Il faudrait les rappeler peut-être, hein, parce qu'en fait ça a évolué. Quelles sont-elles aujourd'hui d'ailleurs? Quelle est la jauge autorisée pour un musée de votre type?
Alors la jauge, on est resté à une personne 4 mètres carrés, ce qui fait dans notre cas de figure une jauge de 80 personnes par étage au musée en même temps, ce qui est très très loin de ce qu'on fait en temps normal. Donc je vais vous dire, même en étant, pour nous aujourd'hui, on n'a plus de restrictions d'accueil des publics parce que de toute façon, 80 personnes par étage, c'est-à-dire 160 personnes en même temps dans le musée, à part les jours de vernissage, c'est quand même très rare qu'on l'ait dans la fréquentation quotidienne du musée. Donc la jauge, elle est toujours là. On attend, hein, puisque depuis l'avancée et cette levée des restrictions, hein, qui a 15 jours d'avance, on attend d'avoir le mail de la DRAC et de la préfecture qui nous confirme qu'il y a une levée totale de tout. Mais pour le moment, nous aujourd'hui, ça ne joue plus sur nos capacités d'accueil. On est vraiment, aujourd'hui, on doit accueillir entre 30 et 35 personnes par demi-journée. Donc, vous voyez, on est très loin des 160 par heure autorisées. Donc, je suis pas du tout inquiète et j'aimerais bien voir plus de monde. Oui, j'aimerais bien voir plus de monde.
Merci. J'ai une autre question parce qu'il y a, on a évoqué un petit peu l'aspect de l'activité sur son sa dimension numérique. Très peu l'aspect humain. Est-ce que vos équipes, vos collaborateurs ont eu des, disons, il n'y a pas eu d'incident majeur pendant la période de fermeture, des dépressions ou des moments de spleen, tout simplement de pas avoir de public et de pas accéder au musée?
Mon équipe est constituée de 3 personnes, dont 2 qui sont en 100% de temps sur de l'accueil du public, donc en surveillance et médiation en salle. Donc ces 2 personnes là, elles ont été entièrement arrêtées, c'est-à-dire avec une prise en charge des salaires par l'État, et ça voulait dire évidemment qu'elles ne travaillaient plus du tout. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Ce sont des personnes qui n'ont pas de profil spécialisé, en tout cas en histoire de l'art ou en question numérique, en question plus généraliste, qui auraient pu nous accompagner dans un travail dans les bureaux d'administration et de conservation. Donc pour ces deux personnes, elles ont été dans un long chômage technique. Alors une l'a vécu plutôt mieux que l'autre. L'autre, c'était très dur, cette inactivité. Donc je sais qu'elle a été tout de suite la première à vouloir revenir au musée dès que c'était possible. Quant à la dernière personne, elle est sur un poste double, à la fois accueil des publics et à la fois secrétariat avec moi dans les bureaux. Et donc on a travaillé ensemble justement beaucoup sur la question de la bibliothèque, des archives documentaires. Ça a été vraiment un fil conducteur avec elle, et c'était bien d'ailleurs de pouvoir travailler ensemble là-dessus puisqu'on avait le temps de le faire. Après, j'ai senti quand même, voilà, que ça avait fait décrocher mon équipe. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, pour les deux personnes qui étaient en accueil des publics et donc qui ont été, qui ont fait un arrêt de travail forcé de plus de 6 mois. Avec notre période de fermeture intégrée, elles ont arrêté donc au mois d'octobre et elles sont revenues la première semaine de mai. Donc ça fait un arrêt très très long. Alors en plus, moi, c'est des équipes qui sont à quelques années du départ en retraite, donc c'était un peu difficile de remobiliser tout le monde avec la même énergie et le même entrain. Mais maintenant qu'on a réouvert, donc ça c'était au départ, maintenant qu'on a réouvert, je les sais très heureuses de retrouver les œuvres déjà, parce que on a quand même une relation particulière quand on travaille dans un musée avec les œuvres, qui leur manquait beaucoup, et je sais qu'elles sont très heureuses de réaccueillir le public avec qui elles sont en relation directe, hein, puisqu'elles sont aussi médiatrices et donc elles ont un vrai contact. Donc il y a eu une petite période, d'ailleurs je pense que c'est une des choses qui m'a beaucoup occupée aussi, c'est la question managériale pendant ce confinement, c'est-à-dire à réfléchir sur les profils de poste du musée, à réfléchir sur les formations les plus justes, à réfléchir sur le temps de travail. Enfin, je trouve qu'on s'est posé pour une fois des questions de fond, vraiment, je le redis, à remettre tout en perspective et à ne pas continuer un petit peu sur cette autoroute, hein, du travail un peu qui nous pousse de temps en temps à pas se poser les questions essentielles. Donc c'est vrai que la question managériale a été très au centre de mes préoccupations. On a revu les conventions collectives, on a retravaillé, on a fait un vrai travail de fond quand même sur cette question-là aussi.
Merci, c'est vrai que c'est important, on va finir là-dessus. La crise, on l'espère, est derrière nous. Le musée est réouvert. Et je me disais, il y a quand même, malgré les difficultés que vous avez traversées, il y a des acquis, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas c'est ce que j'ai clairement entendu, c'est-à-dire un travail de fond fait sur les œuvres, les notices. On n'a pas évoqué des travaux de restauration. Vous avez fait des restaurations?
On a fait des restaurations et des campagnes de numérisation. Ça allait avec donc des campagnes photographiques sur la collection pour alimenter notre base informatique justement. Et les restaurations, oui, on a fait des restaurations. Des œuvres sont parties en restauration, bien sûr. On a fait le point en tout cas sur ce qui allait en restauration, ce qui allait en encadrement. On a pu vraiment faire revoir. Alors c'est un travail qu'on fait chaque année. On a une petite collection au musée Strine, hein. On a un millier de pièces, qui n'est pas le cas d'autres musées qui en ont 10, 20, 30 000. Donc on a vraiment quand même une proximité avec nos œuvres qui permet de faire ça régulièrement. Mais là, on a pu le revoir et vraiment faire une feuille de route des priorités avec et les lancer. Voilà, et les lancer. C'est ça peut-être.
Merci beaucoup, Elisa. Malheureusement, l'heure tourne et c'est déjà le moment de finir. Je suis désolé. J'aurais voulu évoquer pas mal d'autres points. On aura l'occasion de se revoir et d'en reparler ultérieurement. Je vous rappelle simplement que vous dirigez, je rappelle aux auditeurs, pardon, que vous dirigez le musée Strine à Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence situé dans les Alpes, au cœur de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'espère pour les auditeurs que nous avons pu leur apporter des éléments d'appréciation, d'évaluation de ce qui s'était passé dans un établissement culturel pendant la crise sanitaire et un peu au sortir de cette crise. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Fréquence T. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau grain de Cosette. Merci encore, Elisa.
Merci, Bertrand.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.